Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive?
Quand je me lave, j'ai un peu mal.
Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton.
Et oui, dans les années 80, la pub allait loin, les nuls encore plus, on va en parler. Alors normalement, à ce stade de l'émission, c'est moi qui accueille de manière, il faut le dire, assez conventionnelle notre invité en présentant ses principaux faits d'armes. Mais voilà, aujourd'hui est un jour particulier où seul Quentin, le meilleur imitateur du service public, le Canteloup bénévole, peut décemment présenter notre invité. Vu l'invité, Quentin, c'est à vous.
Et maintenant, j'accueille Thierry Ardisson, animateur, producteur, ancien publicitaire. Thierry, on est très heureux de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen. Vous venez nous présenter votre dernier livre, vous vous rendez hommage à votre premier métier, la pub, l'âge d'or de la pub aux éditions du Rocher. Thierry Ardisson, au milieu des années 80, vous achetez une maison dans l'Orne, à quelques minutes de la gare d'Argentan, pour, je cite, « faire une grande salle de projection afin de mieux vous regarder en différé le samedi soir à la télévision ». Et là, c'est le destin. Une soirée entre amis du showbiz, un buffet, des cacahuètes, et ce space cake, amené discrètement par Laurent Baffy, et Lynn Renault, qui mange l'intégralité du gâteau.
Bonjour Thierry Ardisson, je pense qu'on vous aura reconnu, merci d'être avec nous sur Inter.
C'est un plaisir pour moi.
Si je lis le bandeau sur la couverture du livre, vous dites « J'ai eu envie de rendre à la pub ce qu'elle m'a donné en racontant cette époque bénie de liberté de création ». Elle vous a donné quoi la pub Thierry? On ne sait pas, elle vous a donné
déjà
le sens
moi,
du concept?
Ce qu'elle m'a donné à moi personnellement, c'est que j'arrivais de province, j'avais 19 ans, je connaissais rien ni personne, et puis on m'a permis, dans la pub, à créer des affiches, des petits spots de 30 secondes, des spots radio, des annonces presse. Donc ça m'a déjà permis, c'était ma grande école en fait.
C'est votre université.
Oui, mon université, c'est-à-dire que ça m'a permis de me frotter comme ça à Paris et au métier, un des métiers les plus branchés, parce que c'était en plus l'époque où on passait de la réclame à la publicité. Et donc moi j'ai eu l'agence de travailler avec l'agence TBWA qui était en train de se créer, où là ils arrivaient directement de New York, donc on apprenait la vraie technique.
C'était hyper créatif, on va y revenir pendant cette émission. Les grandes heures de la pub avec le créateur du slogan « Quand c'est trop pico en chair et en os oui, » avec nous en studio, mais aussi les frasques de l'abbé Pierre dont visiblement le chaussé au moine n'était pas Thierry le seul péché.
Oui, c'est vrai.
Ou encore, comment publier sa biographie quand on n'a rien accompli de notable et quand on n'est même pas foutu de l'écrire soi-même? Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Zen. 2 heures désormais chaque après-midi pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire. Un slogan qui vaut ce qui vaut, sachant que dans notre époque, on n'avait pas pu se payer les services de Thierry Ardisson, mais on n'en avait pas eu besoin, car les caméras de France 3, Île-de-France, étaient venues nous filmer. Souvenez-vous, au lancement de cette émission, et le journaliste avait tout trouvé pour nous. Une accroche forte.
Le direct, c'est sans filet. Sans filet, c'est excitant, mais c'est aussi risqué.
Bon, comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur l'orthographe, on l'a finalement pas mis sur l'affiche, mais le journaliste de France 3 nous avait aussi trouvé notre slogan.
Voilà, ils ont tenu l'antenne pendant une heure, ils auront fait des zooms tout en restant zen.
Je pense honnêtement que même Thierry, à l'apogée de sa créativité, n'aurait pas trouvé mieux que « ils ont fait des zooms tout en restant zen ».
France Inter, Zoom Zoom Zen. Noël.
L'âge d'or de la pub, c'est le titre de votre livre aux éditions du Rocher. On va en parler, Thierry Ardisson. Juste le temps de vous présenter mes collaborateurs. À commencer par votre sosie vocale, un véritable enfant de la pub. Je peux vous dire qu'à cause de vous, il en a bouffé, peut-être même sniffé de l'ovomaltine, avec les conséquences désastreuses que vous pouvez le constater sur sa croissance. Bonjour Quentin, lui.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour tout le monde.
Quentin, chaque après-midi, vous nous entraînez dans les méandres de la PQR, la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, direction la Touraine.
Des inconnus qui se font écrire leur biographie. J'ai lu la presse tourangelle ce week-end, je vous raconte ce qu'il est dans la prochaine demi-heure.
À vos côtés, Thierry, elle ne vous regarde plus de la même manière depuis qu'elle a ouvert votre livre et qu'elle est tombée à la page 10 sur vous, équipée de mi-chaussettes, caviar, coton, mélange, océan gris. Ça, je peux vous dire que, pour Dim, hein, bonjour Manon Mariani.
Bonjour, je vais même par contre.
Ah oui, ouais. Elle a les yeux qui brillent, c'est bien compréhensible. Manon, chaque après-midi, vous disséquez pour nous l'actu des réseaux sociaux dans votre célèbre veille sanitaire au programme.
Une plateforme de jeux en ligne qui fait fureur auprès des enfants, elle s'appelle Roblox et elle a pour particularité que chacun peut y publier son propre jeu. Du coup, il y en a des millions.
Ah oui.
Et ça crée des dérapages qui peuvent être très très dangereux pour les mineurs. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Avec nous également en studio, comme chaque après-midi, notre Laurent Baffy à nous, sauf qu'elle pratique un humour 2024 compatible, où par exemple, elle ne dira pas frontalement un mandalire.
Et là, tu vas nous montrer ta bite.
Non, non, elle ne dira pas ça. Bonjour Marie de Brouwer, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors Marie, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité de ce jour?
Eh bien, Nike, la marque de vêtements que certains utilisent pour faire du sport, d'autres pour faire des siestes, a un nouveau patron. Voilà, l'info est pas ouf, mais je suis pas journaliste.
Non, c'est vrai, pas tout. Si vous aimez rire, sachez que Merwan Ben Lazar sera là aussi en toute fin d'émission. Et puis bien sûr, il nous revient tout droit d'Ibiza, où il a fait la fermeture de l'Amnésia, un sacré disco club, nous a-t-il dit, des étoiles plein les yeux.
El
Diablo de la Noche. Et de retour, il a passé les contrôles à Roissy malgré tous les petits souvenirs qu'il a rapportés, qu'il ne faudra pas confondre avec le talc pour son fils dans l'armoire à pharmacie. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Cyril, l'actu va vite, mais pas aussi vite que vous. Oh. Chaque après-midi, oui. Les trois infos qu'on aura hâte de raconter à la maison au menu du Lacar News.
Eh bien, Cannes 2000 et la Batmobile, star du mondial de l'auto, Alain Delon, honoré par la ville de Paris. Et ça fait débat, l'abbé Pierre était un malade mental, et c'est l'Église qui le dit.
On a hâte, Cyril. Mais d'abord, on va ouvrir le livre des souvenirs avec notre invité Thierry Hardisson. C'est l'homme de pub qu'on reçoit aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen. L'âge d'or de la pub, c'est votre dernier livre. Il sort cette semaine aux éditions du Rocher. Comment vous êtes tombé dans la pub, Thierry? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ce que vous racontez dans la préface? Vous vous baladiez sur l'avenue?
Non. D'abord, quand j'étais adolescent, j'avais fait un petit concours de pub par correspondance pour la marque de chaussettes Stem.
Déjà les chaussettes?
Déjà les chaussettes. Et j'avais, oui. Et j'avais trouvé Stem un peu beaucoup passionnément, ce qui est con.
Bon. Mais ça sonnait bien,
voilà.
Déjà.
Et donc le mec m'avait répondu, écoutez, oui, vous n'êtes pas numéro un, mais quand même, c'est bien. Et après, bon, j'avais, je sais pas, 19-20 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je suis monté à Paris, évidemment, je veux faire de la pub. Chez Publicis, ils m'ont dit, vous n'avez pas fait le service militaire dehors. Et c'est vrai, ça a l'air d'un... En descendant les Champs-Élysées, je vois écrit BBDO, agence de pub, je monte, je me retrouve avec des... Un peu comme ici, quoi. C'était des fauteuils Knoll, une moquette épaisse comme ça. Moi, j'arrivais de ma province, j'étais un peu con-con, quoi. Et la fille me dit, qu'est-ce que vous voulez de quoi? Je dis, je cherche du boulot, asseyez-vous là. Et c'est vrai, au bout d'un moment, il y a un mec qui arrive, il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Cherche du boulot. Ben, viens. Et le mec, il bossait à la promotion des ventes, donc c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Bon, voilà, cheval donné, on regarde pas les dents. Donc j'ai dit, je vais faire de la promotion. Donc, j'ouvrais des prises uniques. Et puis un jour, il y a un garçon qui s'appelait Yves Navarre, qui est un écrivain, qui était chez Publicis, qui vient dans cette agence et qui était un peu homo. Donc il me voit, il dit, mais qu'est-ce qu'il cherche, ce petit garçon? Je dis, ce petit garçon, il voudrait faire de la création, ce petit garçon. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, et c'est pas... Ça a l'air d'être une histoire, mais c'est vrai.
Et surtout, vous arrivez à un moment charnière dans, oui, dans l'histoire de la pub, en France en tout cas. C'est une époque où la pub débarque tout juste à la télé, c'était en 68. C'est quoi ce premier spot?
Le premier spot, c'est une punition... Vraiment, parce qu'il y avait des... Il y avait avant, il y avait la pub pour les pruneaux, pour les petits pois. Bon, ça, c'est pas ça. Là, c'est le premier spot de marque.
Ouais. Mmh.
Et donc, c'est Boursin. Le spot est d'une connerie absolument abyssale. C'est ce pauvre Duby, l'acteur Duby, qui se lève et dit du Boursin. Il va dans le frigo, il mange du Boursin. C'était le degré zéro de la créativité.
Oui, mais bon, on se souvient qu'il faut manger du Boursin.
On se souvient que c'est Boursin. Ouais. Et puis après, bon, mais ça a évolué. Non, c'est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, donc, les agences américaines s'installent à Paris. C'est la fin de la réclame. C'est le début de la publicité moderne où on n'est plus des clients, mais on devient tous des consommateurs. Mmh. Et donc, à partir de là, études marketing, machin, tout ça. Mais il faut toujours, à la sortie, quand même un créatif pour transformer la stratégie marketing en slogan. Ouais.
Mais qu'est-ce qui différencie la réclame de la pub?
La réclame, c'était ce que j'ai fait après. Parce que après, moi, j'ai arrêté, puis après, j'ai remonté une agence. La réclame, c'est quand c'est trop picot, la paire, il n'y en a pas deux. Ça, c'est de la réclame. C'est-à-dire, c'est gros, mais c'est mémorisable.
Et ça marche.
La pub, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce n'est pas une campagne de moi, mais je vais vous dire ce que ça peut être, la pub. Pour les handicapés physiques, vous avez une double page, et vous voyez un mec sur un fauteuil roulant qui est assis devant un téléviseur retourné. Et avec un tournevis, il enlève le capot du téléviseur. Il y a marqué, ce que vous voyez sur cette photo, c'est un téléviseur qui répare un homme.
Oh. Mais c'est de qui ça?
C'est... Je ne me souviens plus de son nom, c'était l'agence TBWA. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une fille qui avait fait ça, qui était très douée. Et ce que je veux dire simplement, c'est que la pub, ça peut être formidable. C'est intelligent, c'est fin. La réclame, c'est le truc. Sacha Guitry, il a fait LSK, c'était ski. qui est...
C'est surtout des slogans, en fait.
Oui, ouais, c'est des gros slogans.
Mais on n'est plus dans cet âge d'or, aujourd'hui, pour vous, il y a moins...
De la pub,
de pub ouais.
Ah ben non, on n'est plus du tout, parce que si vous voulez, à un moment, comme ça s'est passé à la télé, puis à peu près partout, il y a les cost-contrôleurs qui sont arrivés, et les mecs ont dit, avant d'ouvrir, de dire ça, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Et donc, les mecs, il y avait du talent dans la pub, parce qu'il y avait de l'argent. Le talent va où il y a de l'argent.
Et
donc, comme ils ont coupé les robinets, bah, d'un seul coup, on allait faire de la télé, parce que là, il y avait encore de l'argent à prendre. Maintenant, on est rattrapé par la patrouille, parce qu'il n'y a plus non plus d'argent à télé.
Où est-ce qu'on va pouvoir...
C'est-à-dire que les chaînes de télé en France, si vous remarquez, elles appartiennent à des milliardaires qui n'ont pas d'argent. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça soit Bouygues, que ça soit Bolloré, que ça soit Saadé, ils sont milliardaires, donc on leur a donné la chaîne. Ils font passer leur idéologie, évidemment, plutôt que celle d'un autre, hein, puisque c'est à eux. Sauf que quand vous leur demandez de l'argent pour faire des émissions, ils disent « Ah ben non, là, on est un peu juste en ce moment. »
Le petit coup de gueule de Thierry cet après-midi. Qui n'a jamais rêvé de monter dans la célèbre DeLorean de Retour vers le futur ? C'est désormais possible. Soit vous l'achetez, c'est ce que ferait tout simplement Thierry Ardisson, qui a les moyens, soit vous vous rendez au Mondial de l'automobile. Cyril vous explique juste après Grace Jones. Ça aussi, ça fait du bien, la vie en rose sur Inter. Zoom Zoom Zen, il n'y en a pas deux. Le slogan n'avait pas été retenu, c'est dommage, il claquait pas mal. Avec nous cet après-midi pour s'amuser de l'actu, celui qui fut un grand publicitaire avant d'être un homme de télé, Thierry Ardisson. Thierry, dans un instant, vous allez nous dire si vous saviez pour l'abbé Pierre et si vous êtes d'accord avec le fait que la ville de Paris rend hommage à Alain Delon. Mais d'abord, on se plonge dans votre dernier livre, L'âge d'or de la pub aux éditions du Rocher. La pub, on l'a compris, c'était super, mais vous en êtes revenu, vous dites, à force de vendre du fromage blanc, on finit par avoir du yaourt dans la tête.
Ce qui n'est pas faux.
Formule.
Moi, le pire de tout, c'est que moi, je réussissais bien, on gagnait des tonnes d'argent à l'époque, là-dedans. Et puis un jour, j'ai commencé, tellement je me faisais chier, je commençais à me droguer.
Ah, c'est comme ça que c'est venu?
Bah oui, je me suis accroché à l'héro parce que je me faisais chier. je suis parti aux États-Unis parce que là-bas, il y en avait peut-être, mais je ne savais pas qui en avait. Donc, j'étais tranquille.
Vous avez choisi les États-Unis pour vous sevrer de l'héroïne.
Oui, la Californie, oui. Non, parce que je n'ai pas voulu médicaliser. C'est-à-dire, tout le monde m'a dit, on va te donner de la méthadone, du Subutex. Et j'ai dit, non, ce n'est pas une maladie, c'est une connerie. Donc, si c'est une connerie, je dois payer. Et je suis parti là-bas au début, c'était, enfin je vous raconte pas, je l'ai raconté dans le bouquin évidemment, mais bon, et enfin pas dans celui-là, c'est la suite de celui-là en fait, c'est-à-dire, c'est à l'âge d'or de la pub, après, il y a l'héros. Et donc je reste 6 mois là-bas, et je reviens, et là évidemment j'ai plus vu personne, c'était l'époque du Palace, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'on avait de quoi se changer les idées, la musique qu'on vient d'écouter, c'était la grande musique du Palace. Et
On vous sent très nostalgique, Thierry, de ces époques. Je sais pas ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, puisqu'elle nous fait rêver, nous,
Des trucs comme le Palace, honnêtement, j'en ai pas revu depuis, et je suis pas sûr que vous en verrez.
Non,
et c'était les dernières grandes fêtes de Paris. C'était une époque où. Alors voilà, après on peut dire, ah, pauvre schnock, mais oui, c'est comme ça. C'est pas dire que maintenant il se passe pas des trucs bien.
C'est vrai que vous aimeriez bien en faire une série?
Oui, j'ai essayé.
Oui.
J'ai essayé. Bolloré, j'avais proposé de faire une série sur le. Enfin, c'était un film d'abord sur le Palace. Mmh. Et puis, en fait, un jour, il n'a pas eu le courage de me dire, mais il me fait dire par un de ses sbires oui, bah, tu sais, il y a des gens qui baissent dans les chiottes dans ton scénario. Bah, j'ai dit oui, le Palace, tout le monde baissait dans les chiottes. J'ai dit, c'était. Non, mais il me dit des garçons avec avec des barbes qui baissent dans les chiottes. Mais ils ont des robes en plus, ils ont des robes. Ils ont des robes en crépon, hein. Alors, non, on va pas faire le film. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, ce qu'il faut dire quand même, entre nous, là, 5 minutes, ça a été inventé, Canal, par François Mitterrand, pour aider le cinéma français. Clairement. Bon, on a donné une fréquence, c'est la première mission de faire ça. Et aujourd'hui, c'est utilisé par un mec qui fait passer son idéologie catho-tradie, quoi. C'est-à-dire, ce qui était fait au départ pour aider les gens à faire du cinéma, aujourd'hui, c'est tenu par un mec qui interdit à Ozon de faire son film, je sais comment ça s'appelait, parce qu'il parlait d'homosexualité. Donc, je trouve ça quand même dingue. C'est-à-dire qu'il a pris pour lui ce qui appartient à tout le monde.
Voilà. Vous en avez fait un combat. Vous le nommez souvent, ça.
Bah oui, parce que si vous voulez, je vais pas, m'insurger contre l'attaque israélienne, contre le Liban, vous voyez, parce que de toute façon, quoi que je puisse dire, ça changera pas grand-chose. Là, je pense quand même que sur le domaine que je connais, qui est celui de la télévision, quelle est la vraie mission du service public, par exemple, qui est une question qui est jamais posée. Ils se demandent s'ils vont faire une holding, mais le problème, c'est pas de faire une holding. Le problème, c'est de transmettre le savoir et la connaissance. Pas du tout la même chose. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est oui, là, je me sens légitime pour parler de ça, bien sûr.
On a même l'impression que la télé vous manque, Thierry.
Pas l'animation,
non. La production.
Non, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai d'abord eu une première carrière. Je suis arrivé à la télé, j'avais 35 ans, et ça, je ne savais même pas ce que c'était de présenter une émission. Donc non, ça ne me manque vraiment pas. On me propose, encore à midi, on m'a proposé une émission. C'est pas ça. En même temps, ce qui me manquerait, c'est de plus produire des émissions. C'est pour ça que j'ai fait Hôtel du Temps. Après m'être fait virer par Bolloré, j'ai fait Hôtel du Temps. Et cet été, j'ai fait une émission, le débarquement en 40... 4, comme s'il y avait eu une chaîne d'infos.
Et ça, commenté en direct. Comme...
En direct, il y a Bugier qui dit, écoutez, il y a des avions au-dessus de la Manche, c'est peut-être le débarquement. Ça m'intéresse beaucoup de faire ça. Maintenant, aller cracher dans le micro, puis il n'y a plus les gens. Quand vous avez interviewé Gainsbourg et d'Ormesson, si vous voulez, c'est vrai qu'Amir et Amel Bent, c'est un peu chaud quand même.
Mais il n'y a pas qu'Amir et Amel Bent, il y a quand même des gens... Enfin, si vous n'aimez pas Amir et Amel Bent, si c'est votre droit.
Ils ont des choses à dire aussi.
Bon, peut-être. J'ai vu que l'invité principal de Léa, c'était Jean-Pierre Foucault la semaine dernière. Ça en dit long quand même sur le casting français aujourd'hui.
Elle n'a pas que Jean-Pierre Foucault. Vous êtes... Autant je taquine Léa moi-même, mais elle n'a pas que Jean-Pierre Foucault.
Mais il faut taquiner Léa.
Oui, si, ça, j'y vais.
Mais il faut. Elle a trop de succès.
Vous écoutez France Inter, il est 17h26. Et c'est jour de fête pour les Lacarzouz qui retrouvent enfin leur idole.
Oui.
Cyril Lacarrière qui s'était éclipsé quelques jours à Ibiza. Sur les photos publiées sur Insta, on peut le voir se trémousser jusqu'au bout de la nuit, mais toujours avec une bouteille d'eau à la main, ce qui m'a d'abord rassuré avant que Manon m'explique que ce n'était pas rassurant.
Non.
Cyril, c'est l'heure du Lacarnews.
C'est vrai.
Les trois infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. On commence par les bagnoles du jour.
Alors elles sont dans votre garage, Mathieu, mais elles sont aussi au Mondial de l'Auto. Il s'ouvre aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, la Batmobile, la DeLorean de Retour vers le futur, la Jeep de Jurassic Park, une Dodge Charger de la franchise Fast and Furious, je ne connaissais même pas, et même la Pontiac Firebird de K2000. Alors si vous aimez les voitures mythiques des films, des séries, allez donc faire un tour au Pavillon 7, une exposition baptisée Pop Culture. Mais ne rêvez pas, vous ne pourrez pas vous installer dedans, Mathieu. Non, ah bah, impossible. Non. Trop de risques de les abîmer avec vos petites sales pattes pleines de gras. Oh. Toutes ces voitures appartiennent à un collectionneur français, en fait. Il a accepté de les prêter au salon de l'auto. Pour
le même collectionneur ?
Ouais, ouais, il en a 50, il en a prêté 25.
Eh bien.
Pour l'anecdote, il y a très longtemps de ça, j'ai fait une photo, moi, à côté de K2000, j'étais ado, et c'était, vous allez vous régaler, c'était au centre commercial Carrefour de Ponto Combo en Seine-et-Marne. Absolument. Ils avaient apporté kit dans le centre commercial. Je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais pas peu fier, c'était un Polaroid. Et moi, je m'étais assis dans K2000. Hein.
La phrase du jour, Siri.
Un grand malade mental. C'est comme ça qu'était qualifié l'abbé Pierre dès 1964. C'est donc il y a 60 ans. On l'a appris grâce à des documents détenus par la Conférence des évêques de France, des documents qui viennent d'être rendus publics et que le Figaro relate. Dans une lettre probablement écrite par le secrétaire général de l'Épiscopat, on peut lire, je cite, que l'abbé Pierre perd tout contrôle de lui, notamment après des livres à succès, et que des jeunes filles en ont été marquées pour la vie. Alors tout porte à croire que l'Église savait, mais que se passe-t-il pour la classe politique? Depuis les révélations sur le fondateur d'Emmaüs, elle est mutique. Je vous conseille l'article de Libération paru hier, c'est édifiant, comme la mémoire peut vous jouer des tours, ou à quel point on peut louvoyer. Un exemple, cette phrase de Bernard Kouchner, bien sûr que c'est dégueulasse, mais nous sommes tous pêcheurs, si tu le dis Bernard.
D'accord. Et on termine par l'hommage du jour, Cyril.
Alain Delon, honoré par la ville de Paris, la proposition du groupe Modem adoptée par le conseil de la ville, ce sera une plaque sur le cinéma, le Normandie sur les Champs-Élysées, un cinéma historique mais aussi un cinéma qui a fermé ses portes au mois de juin. C'est le cas de quasiment toutes les salles sur l'avenue parisienne. La question de cet hommage a fait débat au sein du conseil de Paris. Certains élus lui reprochent ses propos misogynes, racistes et homophobes, mais il aura bien sa plaque. Était-ce bien nécessaire pour l'interrogation ?
Merci beaucoup Cyril. Thierry Ardisson, une plaque commémorative pour Alain Delon, c'est bien, c'est pas assez, c'est trop ?
C'est des conneries. Non mais je veux dire...
Dans quel sens ?
Alain Delon, non mais la plaque commémorative, elle s'appelle le samouraï. Elle s'appelle plein soleil. Donc qu'est-ce que c'est une plaque grande comme ça dans une rue pourrie ? Alors que le mec, tout le monde peut voir des films géniaux. Enfin, c'est vrai que c'est regrettable ce que vous dites... Mais bon, c'est l'éternel problème, effectivement. Polanski a fait des bons films, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ?
Alors, on ne peut pas cancel tout le monde, mais bon, il y a certaines personnes qui sont cancel. Polanski, l'abbé Pierre, vous l'aviez croisé, l'abbé Pierre ?
Non, j'ai jamais
interviewé. Ah, vous l'avez jamais interviewé ?
Non, j'ai jamais interviewé, mais ça, c'est énorme, quand même. Ça, je trouve ça.
Et ça, vous ne l'avez pas vu bien, parce qu'on se souvient d'une émission de Christophe de Chavannes dans laquelle une escorte
suisse
témoigne. Alors, bon, à l'époque, je ne sais pas si c'est pris au sérieux ou pas, mais dans le petit milieu.
Elle disait ça, elle disait, oui, l'abbé Pierre. Oui, mais enfin,
ça on ne sait pas. Oui. Non, mais,
bon, que l'abbé Pierre ait de temps en temps envie de baiser, on pouvait le comprendre, mais de penser qu'il était à ce niveau-là, voilà, c'est ça.
Sexuelle surtout.
Ouais. Bon, un curé qui va baiser, ça existe. Hein.
Oui, mais après, il y a la notion d'agression sexuelle, oui. C'est tout le problème de l'abbé Pierre. Face à vous, Thierry, rassurez-vous, il ne va plus vous imiter. C'est fini, il a tout donné sur les premières minutes de l'émission. Non, son truc à lui, c'est sa France à lui. Chaque jour, une plongée dans la PQR. Et là, direction la Touraine, Quentin.
Ouais, j'étais de passage en Touraine ce week-end, j'en ai profité pour acheter la Nouvelle République d'Indre-et-Loire, la NR, comme on dit là-bas. C'est cet article en deuxième page qui a retenu mon attention, laisser une trace écrite de sa vie. C'est la bonne idée, le bon concept que Laura Hubert explore depuis quelques temps à Tours, proposer à monsieur et madame tout le monde d'écrire leur biographie. L'article est signé par la journaliste Lorella Prifty. Elle nous parle de Marie-Claude, 80 ans, ancienne éduxpée, qui profite de sa retraite. Elle raconte sa rencontre avec la biographe et du déclic immédiat. Rendez-vous, dialogue, écriture et confidence. Avec cette expérience, Marie-Claude a revécu 30 ans de sa vie, non sans émotion. Elle a fait tirer 25 exemplaires de sa biographie pour les donner à ses proches. Un cadeau pour transmettre son parcours. Elle est jolie, la photo en noir et blanc de Marie-Claude avec laquelle l'ANR illustre l'article. Elle pose fièrement et aussi avec de l'émotion en tenant dans ses mains ce qui est le livre de sa vie, en quelque sorte. Un autre exemple qui m'a touché, celui de Maëva, beaucoup plus jeune, 30 ans, formatrice en soins infirmiers, qui a également décidé de faire appel à Laura Hubert pour conserver l'histoire de sa bataille contre le cancer. Je cherchais surtout à poser des mots sur les mots, M-A-U-X, confie-t-elle au quotidien, pour que ce soit aussi une forme de guérison pour moi. Faire appel à une personne extérieure permet même de donner un côté jovial à son histoire. C'est là-dessus que se termine l'article. Laura Hubert dit avoir un regard neutre qui permet de faire le tri, d'accentuer certains passages, d'en délaisser d'autres, pour ensuite arranger le puzzle qui est une vie et de lui donner de la cohérence. Ancienne journaliste et passionnée d'écriture, elle reconnaît que son métier prend en ce moment, et pardon, il faut compter quelques mois de travail, en moyenne 1 000 euros. Oui, ah oui, pour avoir sa propre biographie, ça a aussi un prix. Ça a aussi un prix.
Et vous aviez oublié une phrase dans votre chronique, je crois.
Laquelle ?
Je ne sais pas, vous êtes arrêté au milieu d'une phrase.
Ah non, parce que j' ai repris ma salive.
Ah, d'accord.
En fait, j'ai tout donné. Vous êtes
tellement professionnel et vous êtes tellement, vous savez, dans la mise en onde que
ça
je me dis, mais ça ne peut pas vous arriver.
Voilà, j'ai donné tellement de salive sur l'imitation de Thierry Ardisson.
C'est incroyable.
J'ai plus de souffle.
C'était magnifique, Quentin. Thierry Ardisson, fou, votre autobiographie, vous l'avez sortie en 2004, Confession d'un baby-boomer. Est-ce qu'il peut y avoir un jour un biopic ? Un biopic sur votre histoire. Qui pour incarner Thierry Ardisson ?
Bah, comme Neftah Raïm est capable de faire tous les rôles.
C'est vrai.
Ah ouais, il va faire James Dean aussi. Taraïm.
Très bien. Alors, s'il nous écoute, on l'appelle. On continue d'évoquer l'âge d'or de la pub avec vous, Thierry. Marie de Breuer s'apprête, si j'ai bien compris, à sombrer dans un agisme de bas étage. C'est bien ça, Marie ?
Exactement, parce que le nouveau patron de Nike, comme disent les Americans, est un ancien retraité. Voilà, j'espère qu'il a une paire de Jordans toutes neuves pour sa rentrée.
Il est retraité, le nouveau patron de Nike ? C'est une vraie info, Marie. Vous avez un petit peu enquêté ?
Bien sûr.
La chronique de Marie, c'est juste après Jack White, What's the Rumpus sur Inter. Un espace qu'on voulait rieur et bienveillant et qui se retrouve gangréné par les pervers. Non, je ne parle pas de Zoom Zoom Zen, même si travailler avec Cyril n'est pas facile tous les jours. Non, je parle de Roblox, une plateforme gratuite de jeux vidéo conçue par les ados et où pullulent désormais des jeux extrêmement borderline. Manon va nous raconter ça. Mais pour l'heure, c'est une info. Marie de Breuer, ou presque Nike, la marque de sportswear, a un nouveau patron, Elliot Hill.
Et vous vous demandez, Marie, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Et voilà, vous aurez raison de vous la poser cette question. La réponse, c'est pas grand-chose. Bon, des blagues. J'ai lu un papier dans le Nouvel Obs, 10 choses à savoir sur Elliot Hill, le nouveau patron de Nike. Ils ont oublié de mettre la cinquième à vous surprendre dans le titre. En même temps, la cinquième n'est pas surprenante. Hein. L'info, c'est que Nike perd de la vitesse depuis qu'ils ont été accusés de sexisme au JO. Non, du sexisme dans le sport. Qu'est-ce que c'est surprenant. Nike avait proposé aux athlètes féminines de participer aux épreuves dans un cosplay genre Hello Kitty bosse dans un strip club. Limite la tenue. Hein. Un body rose échancré ras le tiroir à délices. Fallait qu'elle court vite hein, pour pas qu'on voit les petites lèvres s'échapper. Oh là là. Bref. Bon, c'est qui Elliot Hill? C'est un ancien cadre de Nike parti à la retraite en 2020. À 61 ans, il retourne donc au travail. Selon Emmanuel Macron, cet homme américain est le français idéal. Elliot a pris fonction ce lundi, donc aujourd'hui, c'est un petit peu sa rentrée. Vous pensez qu'il a préparé sa petite tenue sur sa chaise hier? Un sweat gris chiné et une paire d'Air Force One? Just do it! Voilà, oui, c'est le slogan de Nike, monsieur. Do it! Ah, d'accord, vous êtes Shia LaBeouf. Do it! Oh là là, do it. J'ai pas envie de do it, voilà. Les seuls jogging que je porte, c'est jamais pour faire du jogging. Je les appelle mes outfits de sieste. Just do it! Bon, c'était le premier jeu de mots. Excellente chronique. On apprend dans l'article que c'est Elliot Hill qui s'est occupé du partenariat entre Nike et Michael Jordan. Les Jordan, c'est ces chaussures montantes dégueulasses, là, on dirait deux attelles. C'est les seules baskets pour les acheter chez Foot Locker, faut une ordonnance du podologue. Bref. Il raconte que Michael Jordan aurait posé sa chaussure sur le bureau d'Eliott en disant « Je fais du 48, si nos revenus reculent, je viendrai te l'enfoncer dans le derrière. » Et alors, je ne connais pas Monsieur Jordan personnellement, mais à mon avis, il n'a pas dit « dans le derrière ». Je pense plutôt qu'il aurait dit « Up your fucking ass !» directement dans le fion. Mais voilà, c'est une supposition. Puis alors, cette scène, imaginez Jordan se baisser, défaire ses petits lacets, poser sa chaussure sur le bureau. Menacer Elliot Hill de lui foutre dans le fiac, récupérer sa petite basket, se rebaisser, refaire ses petits lacets. Mais c'est ridicule. C'est sûr, ça sentait les panards dans le bureau. Et à tous les coups, Michael Jordan, il fait ses lacets en faisant deux boucles. Voilà, ça c'est les deux oreilles du petit lapin. On tournicote et tada, on fait le nœud. Mais t'as quel âge, Jordan? Ça va pas du tout. Moi, j'y crois pas à cette histoire. On apprend aussi que le nouveau patron dit aimer la course à pied, la randonnée et la pêche à la mouche. Déjà la course à pied et la randonnée, c'est mettre un pied devant l'autre, donc c'est la même chose. C'est nul comme technique de com, le mec veut juste nous faire croire qu'il est bien dans ses baskets. Oh, encore un jeu de mots, elle est bien écrite cette chronique, j'ai envie de me rouler des pelles. Pardon. Non mais la course, la rando, la pêche, sérieux. C'est comme si le patron de McDo disait « Mes passions, sentir l'huile, le mauvais cholestérol et le coloriage. » Et pour les petits curieux qui se demandent « Mais qu'est-ce que c'est la pêche à la mouche ?» Alors désolé, j'ai pas eu le temps de me renseigner, mais je pense hein, que c'est soit de la pêche qui se fait depuis un bateau mouche, soit tu pêches des mouches. Sinon là, je vois pas. « Just do it !» Waouh, vous êtes une abeille qui parle? Non, mais pas du tout. Je suis une mouche. Je suis Shia la mouche. Do it. Shia la mouche. Mais c'est une chronique de Marie de Brouwer ou un film de Quentin Dupieux? Je m'arrête là et demain au programme, des blagues de pisse, histoire de revenir au classique. Just do ma chronique.
Merci Marie de rassurer vos fans. Just do it, nous dit le slogan de Nike. Effectivement, celui-là, c'est quand même pas vous qui l'avez trouvé.
Non, c'est un condamné à mort.
Non.
C'est un condamné à mort.
L'ambiance retombe, là.
Non, mais ça, c'est drôle. Donc, le condamné à mort, il leur dit « Just do it ». Le publicitaire de l'agence apprend ça et il convainc l'annonceur. C'est pas évident, quand même. Hein. L'annonceur a commencé à dire « Oui, mais tu crois qu'on va prendre comme slogan ?» un truc d'un condamné à mort, il dit oui, il faut le faire. Ils l'ont fait.
Ouais. Ah bah, ils l'ont fait, ils ont eu raison de le faire. L'âge
on
d'or.
En parle dans le mec qui vend son livre. On en parle.
Ah, évidemment.
Mais c'est marrant, ils n'ont pas payé le logo non plus. Hein? Nike, ils n'ont pas payé leur logo non plus.
Bah, je sais pas.
Quasiment non. Pas. C'est une étudiante qui avait fait le logo de Nike.
Ah, mais ça dénonce. Ouais, monsieur est journaliste.
Bah, c'est-à-dire monsieur se rattrape.
Vous en voulez pas des gratos
Non. L'âge d'or de la pub, les amis, c'est le nouveau livre de Thierry Ardisson, coécrit avec Anne Saint-Dreux. Ça sort cette semaine aux éditions du Rocher. Et Thierry, vous dites que tout le monde croit que je suis un animateur télé, mais mon vrai métier a toujours été concepteur. Est-ce que ça va rester le fil directeur jusqu'au bout? Vous êtes un concepteur.
Bah, écoutez, j'ai fait de la pub, on en parle. J'ai fait de la télé, on a parlé. Quand j'ai fait de la presse, j'ai fait entrevue. Bon, c'est pas le meilleur journal du monde, mais on vendait quand même 500 000 exemplaires par mois. Après, je l'ai vendu parce que ça a flingué ma carrière, quoi. Je voulais faire de la télé, enfin, j'étais en une période un peu de chômage, je voulais recommencer à la télé. Tout le monde me dit, écoute, avec ce torchon, voilà, donc je l'ai vendu, mais j'ai quand même fait. Et puis j'ai publié mon premier livre à l'âge de 22 ans au Seuil. J'en ai publié 5, dont 2 à 100 000, Louis Vuitton et Confession d'un baby boomer. Mmh. Donc, oui, je suis un concepteur, c'est-à-dire que moi j'ai des idées, des concepts, et certaines elles vont dans un livre, d'autres dans une émission de télé, d'autres dans un journal. Là, je suis en train d'écrire un livre à partir d'un pitch que j'avais trouvé pour un film.
Vous avez proposé le film ?
Non, le film, je ne l'avais pas proposé. De toute façon, j'avais écrit l'idée du film, quoi. Et puis là, j'ai cherché une idée pour faire un roman. Je me suis dit, putain, mais c'est les 5 dernières minutes, vous connaissez ça ? Mais c'est bien sûr.
Oui, mais ça, c'est le thème du livre ?
Non. Alors, c'est une référence sur le RTF. Le livre, c'est un animateur télé qui prend une balle dans la tête à la première seconde de son émission. Et tout ce qu'on voit, en fait, tout ce qu'on lit, c'est l'émission qui continue pendant l'agonie. C'est une émission fantasmagorique, mais avec les invités qui arrivent avec la même lumière, les mêmes applauds, le même escalier. Mais c'est voilà.
Ça parle pas de Michel Drucker.
Non, c'est bizarre d'ailleurs.
Ça aurait pu être un
Michel Drucker, je l'adore. Toute ma vie, il m'a dit, Thierry, ben franchement, arrête de boire, arrête de fumer. Là, un jour, je l'amène au Matisse, il prend une verveine. Mais c'est vrai. Et alors, l'autre jour, je le vois, je dis, Michel, finalement,
qui avait
plus malade que moi, mon gars.
Vous lui avez vraiment dit, ouais. Oh pauvre Michel.
On l'appelait Terminator, Michel.
Bah oui, je me souviens, évidemment.
Mais il va tous nous enterrer.
Quand même.
Quand même.
Vous parlez toujours beaucoup de télé, on sent que ça vous intéresse, on sent que ça vous révulse parfois ce que vous voyez. Vous vous êtes réjoui de la disparition prochaine de C8 ?
Oui.
Ça, vous êtes content.
Après avoir reproché à Charlène de s'être réjoui de la suppression de Salut les Terriens.
Ah, Charline.
Charline.
Pardon, oui. Excusez-moi, oui. Un jour, elle arrive, j'étais avec Léa Salamé, elle arrive, elle dit « Ah ben moi, je suis bien content que ça soit terminé. » J'ai dit « Toi qui es de gauche, le fait qu'il y ait 100 personnes sur le carreau, ça devrait quand même te toucher. » Et voilà, là, c'était un peu écrasé quand même. Et là, oui, moi, je fais du Charline. C'est-à-dire, je me réjouis de l'arrêt de C8. D'abord parce que ça fera des économies à Bolloré. Il a perdu 368 millions d'euros sur cette chaîne depuis le début. Il perd 45 millions par an. Donc, je pense qu'il a intérêt à s'arrêter. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Fait plaisir à mon ami Bolloré. Et puis, peut-être qu'on verra plus Cyril.
Et Cyril Hanouna, vous ne voulez plus le voir non plus, mais enfin, vous savez, ils risquent quand même de repartir sur Canal+. Je ne pense pas qu'ils vont le laisser comme
non,
ça.
Non, parce qu'ils veulent faire de Canal+, une plateforme. Parce que ça lui coûte cher à Bolloré d'avoir cette fréquence qui ne lui sert à rien. Donc il veut faire une plateforme comme Netflix ou Amazon.
Et vous avez des infos là-dessus ou c'est votre intuition ?
Ah non, ce n'est pas mon intuition, c'est que je sais que c'est une hypothèse qui est sérieusement envisagée. Oui.
Et il pourrait avoir une émission, hein, Cyril Hanouna, quand même, sur une plateforme de Canal.
Ouais, j'y crois.
Non, ça vous étonne ?
Ouais. Je pense en plus que je connais très bien Bolloré, mais on se voit plus depuis qu'il m'a viré comme une merde. Mais je pense que lui, ça lui fait pas de la peine peut-être de voir partir Hanouna, parce que c'est quand même beaucoup d'emmerde. Hein.
À une époque, moi je me souviens, Thierry, vous défendiez Bolloré.
Bah tant qu'il m'a pas fait chier, oui.
Mais s'il avait pas divisé par deux le budget de Salut les Terriens, vous seriez resté dans ce groupe que vous dites un groupe de radicalisés aujourd'hui.
À l'époque, c'était en 19. On n'en était pas encore là. Aujourd'hui, bien sûr, je n'y serais pas, de toute façon.
Mais vous sentiez, à ce moment-là, venir ?
Oui, bien sûr, je sentais. Non, ce qui était le plus insupportable, si vous voulez, c'était la pression qu'on avait sur les invités. Parce que moi, j'ai jamais eu de pression toute ma vie, on m'a jamais censuré, j'ai jamais eu de pression. Là, il fallait inviter Maud Fontenoy tous les 15 jours. Il faudrait que tu invites Maud Fontenoy, pourquoi faire ? Ah ben, ça serait bien que tu l'invites. Jusqu'au jour, il y a cette fameuse histoire où j'avais invité un mec, un Français, qui avait eu des problèmes avec les Qataris, et on me dit, faut que tu coupes. Je dis, pourquoi ? Parce qu'on est en train de signer avec Bein. Donc il y avait non seulement la radicalisation, mais il y avait aussi une pression, comme si moi, j'étais sa chose. Et donc, quand il a vu que j'étais pas obéissant, il s'est dit, je vais le virer. Parce que quand il m'a dit, je te donne 5 millions au lieu de 10, je lui ai dit, mais si j'acceptais, ça voulait dire que je t'en piquais 5 depuis des années, en fait.
Et dernière question, Thierry. Vous avez connu l'âge d'or de la pub, l'âge d'or de la télé.
Ouais.
Est-ce que la télé, c'est pas un peu fini maintenant ?
Oui. Bien sûr, je regarde YouTube, moi.
Oui, bah comme tout.
La meilleure chaîne de tous les temps, c'est YouTube. Parce que vous avez un documentaire sur le maréchal Pétain, le dernier clip de Beyoncé.
Tout est là.
C'est à peu près tout est là. Moi, j'adore YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui, le soir, je regarde YouTube. Voilà.
Vous écoutez France Inter, il est 17h46.
Non, mais la télé, il n'y a plus d'ambition.
On parle pas sur le jingle, comme on disait dans votre émission. Bah dis donc Thierry, on oublie les fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir. Après l'âge d'or de la pub, qui c'était hier ça, l'âge d'or que nous vivons en ce moment, celui des réseaux sociaux. Et pour nous les décrypter, Manon Mariani, il y a votre sacro-sainte veille sanitaire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une plateforme de jeu.
Oubliez les PS4 et les Xbox, les jeunes aujourd'hui vont sur Roblox. Comme vous l'avez dit Mathieu, c'est une plateforme de jeux en ligne gratuite et accessible à tous. Alors ne vous attendez pas à tomber sur Assassin's Creed ou The Last of Us. Le principe de Roblox est que ce sont des jeux au design assez simple qui se jouent en réseau. Il y a par exemple un jeu Simpson où il faut trouver le maximum de personnages dans Springfield en un temps donné, un jeu d'énigmes au design de Playmobil, un jeu pour construire des maisons, bref, il y en a pour tous les goûts. En tout, il y a plus de 40 millions de jeux sur la plateforme. C'est énorme mais assez logique car la particularité de Roblox est que chacun peut concevoir son jeu. Le site appelle ça des expériences, on peut créer ce que l'on veut, son univers, ses personnages. C'est assez ludique et à portée de main, ce qui explique le nombre élevé de jeux disponibles. D'autant plus que Roblox compte pas moins de 70 millions d'utilisateurs actifs par jour dans le monde. Ça fait beaucoup de joueurs et beaucoup de concepteurs potentiels. Et l'un des jeux phares de la plateforme s'appelle Dress to Impress. 3 milliards de parties ont été lancées. Il s'agit d'un jeu qui s'adresse plutôt aux filles, où l'on doit habiller un personnage sur un thème imposé avec un temps limité. En France, il a notamment été popularisé par des youtubeuses.
Bonjour et bienvenue sur Dress to Impress dans la vraie vie. Je suis très 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 bien accompagnée pour ce concept.
Ouais. Vous venez d'entendre la youtubeuse Magla qui a lancé un concept autour du jeu sur sa chaîne YouTube. Elena Mafouf, hein, qu'on ne présente plus, en a aussi parlé tout l'été dans ses vlogs d'août. Dress to Impress est vraiment le hit de la plateforme.
Et ce sont elles la cible de Roblox, les filles et les jeunes?
Alors principalement même les enfants. La moitié des utilisateurs de Roblox ont moins de 13 ans. C'est pour ça que les jeux sont assez simples. Certains médias définissent même Roblox comme un réseau social pour les enfants. Et le terme réseau social me paraît assez adéquat. Car sur Roblox, on a aussi un profil personnalisé, des amis, et il y a un chat où l'on peut communiquer avec les autres utilisateurs. C'est une vraie communauté comme n'importe quelle autre plateforme sociale. La différence, c'est que la plateforme n'encourage pas ses utilisateurs à donner des informations personnelles. On ne peut pas mettre de photos, par exemple. Et dès notre inscription, il est indiqué qu'il faut éviter de mettre son nom de famille ou son prénom en pseudonyme. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne sont demandés pour s'inscrire, ni notre adresse mail. Seule la date de naissance est requise.
C'est donc assez sécurisé?
Eh bien, manifestement, pas tant que ça. Un rapport publié par la société de recherche Edinburgh Research qualifie la plateforme comme un enfer pédophile pour les enfants. Il montre notamment qu'il y aurait une cinquantaine de groupes d'adultes avec plus de 100 000 membres qui s'échangent des contenus pédopornographiques et sollicitent des actes sexuels auprès de mineurs. Des groupes accessibles aux moins de 13 ans, car le consultant qui a mené l'enquête s'est fait passer pour un mineur sur la plateforme. Il voulait voir réellement à quoi un enfant pouvait être confronté. Et ça ne s'arrête pas là, car comme je le disais sur Roblox, chacun peut concevoir et publier son propre jeu, et certains sont totalement inappropriés. Il y a par exemple un jeu intitulé « Évasion vers l'île de Jeffrey Epstein », du nom du milliardaire américain mort en prison alors qu'il était accusé de trafic sexuel. Un autre jeu, Run from P. Diddy, concerne le rappeur accusé lui aussi de trafic sexuel. Plus d'un million de personnes auraient aussi joué à un jeu qui consiste à tabasser un SDF, un jeu qui a une version dérivée où cette fois il faut battre sa femme, bref, vous voyez l'ambiance. Alors évidemment, depuis la publication du rapport, ces jeux ont été supprimés, je les ai cherchés, je les ai pas trouvés, mais c'est très inquiétant qu'ils aient pu être mis en ligne et donc accessibles à des mineurs. Roblox a répondu à l'enquête en disant qu'elle était trompeuse et que la plateforme investissait massivement dans ses efforts en matière de confiance et de sécurité. À la suite de ces révélations, l'action de Roblox a tout de même chuté de plus de 4%. Est-ce que ça servira de leçon à ses propriétaires ou est-ce qu'ils seront de nouveau dépassés par leur création? À suivre.
Merci beaucoup Manon Mariani. Thierry Ardisson, petite question parce qu'on parle des jeux vidéo, alors on ne parle pas des dérives là dans ma question, mais est-ce que le Thierry Ardisson, si vous aviez aujourd'hui 20 ans, est-ce que le côté concepteur, ça ne serait pas côté jeux vidéo?
Bien sûr, ça serait sur Internet que ça se passerait. Simplement, le problème aujourd'hui, moi j'ai une chaîne YouTube avec 584 000 abonnés qui s'appelle Arditube. Ça me rapporte pas un rond.
La monétisation qui est
compliquée. Ah mais la monétisation, mais c'est scandaleux.
Vous faites quoi sur votre chaîne?
Je diffuse sur Arditube, je diffuse chaque semaine, on change le programme. Vous avez 4 témoignages, 4 stars françaises, 4 stars internationales, plus des interviews formatées, des pépites. Voilà. Et chaque semaine, c'est alimenté.
C'est vos archives?
C'est mes archives, bien entendu. Et voilà. Et après, on a Ardivision, parce que ça vous l'air de l'intéresser. Ardivision, là,
continue
c'est les émissions en entier, mais à l'heure où elles étaient diffusées. C'est-à-dire, vous avez rive droite, rive gauche, vous restez, vous avez salué Terrien, vous restez, et tout le monde en parle, vous restez, vous avez 93, vous restez, vous avez Paris Dernière.
Ça, pour les nostalgiques, c'est...
Bah oui, hors division.
Lui aussi, Thierry, il a le sens du slogan, d'où le titre de son spectacle, le formidable Merwan Ben Lazar. Formidable humoriste peut-être, mais piètre pilote. Merwan joue de malchance depuis quelques semaines, il enchaîne les accidents de moto. Comment va votre petit genou, Merwan?
Pas assez pour reprendre la moto, mais assez pour être à l'antenne et dénoncer les puissants.
Ah, ça c'est important. La chronique de Merwan, enfin s'il ne glisse pas d'ici là, c'est juste après Isolde, garçon sur France Inter.
Ça c'est petit.
Nous en avait privé, mais aujourd'hui il est là avec un seul genou, certes, mais c'est largement assez pour qu'il ridiculise les autres humoristes d'Inter sur deux jambes. Mesdames et messieurs, Merwan Ben Lazar.
Merci, mesdames et messieurs, merci à tous. Waouh, quelle pluie d'applaudissements! Je vous ai beaucoup manqué. Non, mais je vois que je vous ai énormément manqué hein, cette semaine où vous m'avez remplacé en 24 heures par Tania Dutel. Mais je suis content d'être là. Regarde, Mathieu, tout le monde, j'ai l'impression d'être un enfant qui va bientôt mourir à l'hôpital et à qui on ramène toute cette star là. Thierry Ardisson, même Thierry Ardisson, frère. Mais je suis un enfant un peu vieux quand même, mais il est là. Un enfant, bah, je suis plus enfant, mais je mets toujours des couches quoi. Mais voilà, Thierry Ardisson qui est là. Et ne ratez pas dès la semaine prochaine sur Inter notre semaine spéciale Vincent Lagaffe, 168 heures d'émission où il répondra à cette question que tout le monde se pose : comment on peut sortir la Zoubida et ne pas aller en prison ? Allez, Thierry Ardisson, vous étiez dans la pub avant, vous trouviez des slogans cultes, des slogans mythiques. Ça a l'air facile, dit comme ça, de trouver des lapins, il n'y en a pas deux. Mais c'est pas facile en vrai de trouver comme ça des slogans qui restent en tête. On en a tous un là, on pense à un truc. Moi j'en ai un, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est Islam dehors. C'était tatoué sur le dos de Mathieu Noël. Je m'en rappelle, si, il s'était mis torse nu parce que on me jette des objets, les auditeurs, on me jette des objets. Oui, mais c'était mis torse nu, je le dénonce parce que j'avais osé demander est-ce qu'il y a de la viande halal à la cantine d'Inter. Et oui, je vous le dis, Thierry, il criait ça commence comme ça, il criait ça torse nu. Mais pardon, on lavera le linge sale en privé. Mais donc, Thierry, on est là pour parler de vous et on traite bien les invités ici. Et on l'a appris des meilleurs et les meilleurs os de l'histoire de la télévision française, c'est vous, Thierry. J'ai en tête comme ça une fois où vous receviez Elie Semoun et il vous confiait ne pas se sentir très bien. Et on écoute juste cet exemple de bienveillance ensemble.
Ça va ? Je suis un peu fatigué.
T'es fatigué ? J'ai un truc qui l'a très réveillé, moi.
Ah bon ?
Ouais.
Voici Dieudonné.
Hey, j'aimerais trop avoir ce pouvoir dans la vraie vie, en vrai de vrai. Imagine, t'es là, tu discutes avec Benjamin Tranier, tu dis maintenant, un dentiste, allez. Et lui qui crie comme ça avec sa petite voix, yon, yon. Ils vont mettre des gouttières. Vous inquiétez pas, il écoute pas, il a chronique demain. Là, il doit être le roi Merlin de Coulommiers en train de préparer son prochain gag visuel pour la radio, je précise. C'est Tranier, hein. Je sais pas si vous le connaissez, mais quand il était petit à Coulommiers, il gonflait les pneus du Scénic avec la bouche et ça laisse des traces. L'autre fois, je l'ai vu, ouais, il est en train de faire un nœud avec ses scratchs. Enfin bref, mais ouais. Marlboro écrit en gros sur les Formule 1, vous vous rappelez de ça? C'est ça l'âge d'or de la publicité. Une époque sans règles, une époque, Thierry, comme ça, vous filiez 500 francs à un médecin, il passait à la télé, il disait une cigarette, ça n'a jamais tué personne, une cigarette. Alors il faut juste essayer, il faut donner sa chance au produit, Ah putain, c'est ça qui te manque, Thierry. Hein. Aujourd'hui, il n'y aurait plus ça. Hein. T'imagines, aujourd'hui, on a des valeurs, aujourd'hui, il y a des principes. Imagine, dis n'importe quoi, l'équipe de France, sponsorisée par la Française des Jeux. Les paris sportifs, genre n'importe quoi. Quoi encore? Coca-Cola? Bref. L'âge d'or de la pub, c'est surtout qu'à l'époque, en vrai, pour pas caricaturer, vous aviez quartier libre. C'est ça qui est fou. Il y a des gars qui ont réalisé des grands films et qui réalisaient des pubs à l'époque et vous faisiez des grandes pubs. Et aujourd'hui, voir ça et aujourd'hui voir que la publicité maintenant, c'est des influenceurs qui disent des stories Insta, allez-y et avec le code promo, vous avez 20%. Le code promo, c'est pourquoi Marine Leonardi elle s'habille comme au Moyen-Âge. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai, non, vraie question. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire en parlant des influenceurs, c'est que tout le monde veut faire de la pub, peut faire de la pub en tout cas, ouais. Parce que tout le monde peut avoir une audience. Et ce que ça veut dire pour nous en vrai, c'est que du coup, il y a de la pub tout le temps, il y a de la pub partout. Il y en a sur les réseaux, il y en a sur YouTube, il y en a sur Netflix. Tu payes sur une plateforme, tu payes la plateforme et en plus, il y a de la pub. Peut-être maintenant qu'on paye pour avoir de la pub, on va peut-être en plus payer pour voir les trucs. Enfin, j'y comprends rien. En tout cas, moi, ça me frustre. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de finir cette chronique, j'aimerais dédicacer mon sponsor, Rhinoshield. Grâce à Rhinoshield, mon téléphone sera en sécurité. La preuve que Rhinoshield c'est solide. Une fois, Benjamin Tranier a essayé de mâchouiller mon téléphone. Non, pardon, j'arrête avec Benjamin.
Laissez-le tranquille, pauvre Benji. Merci beaucoup, Merwan Ben Lazar. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Si toutefois vous lavez votre linge sale avec Benjamin et avec moi en antenne, il va falloir qu'on se voit. Et si vous trouvez aussi le levier de frein sur votre petit bolide. Merci Thierry Ardisson.
Une chose pour Merwan, c'est que dans les acteurs qui ont joué le cowboy Marlboro, il y en a 6 qui sont morts d'un cancer du poumon.
Comme quoi,
bien fait pour leur gueule.
Exactement.
Merci Thierry Ardisson. Je rappelle merci votre livre, vous. L'âge d'or de la pub aux éditions du Rocher. Merci encore Thierry, merci à tous.
Merci et bravo.
Manon, Marie, Quentin, Cyril, merci également à tous ceux qui nous ont aidés en régie. Florence Gimalac, Alexis Alacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Valentin Gelsomino et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Alicia Bulot, à la technique Maxime Goudard. Zoom Zoom Zen revient demain 16h. On évoquera le procès des assistants parlementaire du Rassemblement National, dont certains étaient évidemment plus gardes du corps à Saint-Cloud qu'assistants parlementaires à Strasbourg. Zoom, zoom, zen.